Vas-y, parle juste pour
moi. Je suis enregistré, donc à partir de maintenant.
Moi, je m'entends très fort. Bon, bonjour et bienvenue à notre quatrième journée du Réseau Art. Nous sommes très reconnaissants à l'église Ephésia pour leur accueil. C'est la troisième année qu'on fait ici, donc merci beaucoup. Alors, il y a quelques informations pratiques. Les toilettes sont en bas de l'escalier. Il faut faire attention en descendant le premier marche. Il y a un stand de livres au fond. N'hésitez pas à profiter pendant la pause. Et si vous avez un téléphone portable, c'est le moment de le mettre sur mode silencieuse ou de l'éteindre. Alors, pour commencer notre journée, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour cette occasion de nous rencontrer. Et merci Seigneur pour ce sujet de la louange. Merci car tu es un Dieu digne de louange. Merci parce que te louer est un tel privilège pour nous. Seigneur, nous voulons te demander de bénir cette journée, de nous inspirer, de guider nos réflexions, que nous puissions te louer davantage et être aussi une bénédiction pour ceux dans nos églises. Dans ton nom. Amen. Donc, le thème pour notre journée, c'est le rôle de l'artiste dans la louange. Et notre première intervention ce matin, qu'est-ce que la louange ? On va aborder des aspects théologiques. Donc Christophe Payer est doyen et professeur à la faculté libre de théologie évangélique à Beau-sur-Seine. Et il est pasteur de l'Union des Églises Libres de France. Donc la louange est un sujet que Christophe tient à cœur, hein. Et il y a des exemplaires de son livre sur le stand de livre. Donc j'aurais dû ramener un livre pour vous montrer, mais ça s'appelle Au cœur de la louange. Voilà. Donc merci beaucoup Christophe.
Merci Rachel. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que la louange ? C'est une grande question. Une vaste question. Il y aurait probablement différentes façons d'y répondre, mais ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer la manière dont la louange est présente au fil de la Bible, au fil des pages de la Bible, dans une démarche qui sera moins une démarche de définition, au sens peut-être de la théologie systématique, une démarche qui serait doctrinale, plus une démarche de théologie biblique, dans le sens où je vais vous inviter à suivre le fil de la louange, des notes de la louange, au travers des pages de l'Ancien Testament, puis du Nouveau Testament. Alors c'est vrai que la louange, c'est banal de le dire, elle est présente de la première à la dernière page de la Bible. Elle est cette note d'admiration, cette note de reconnaissance, cette note de joie, avec des accents différents selon les moments, selon les lieux, mais cette note qui retentit en permanence. Sans être omniprésente quand même, parce que d'autres notes se font aussi régulièrement entendre. La louange est donc bien présente sur la partition biblique. Est-ce qu'elle est la note dominante ? Évidemment, d'autres thématiques, d'autres notes pourraient contester, pourraient lui disputer cette place, mais en tout cas, à mon avis, elle est une des notes dominantes. Disons que sur la ligne mélodique de la louange, si vous voulez, il y a de forts crescendo, comme à la fin du livre des psaumes, on en reparlera, mais il y a aussi des silences, plus ou moins long, comme dans certains textes prophétiques. Et donc c'est cette ligne de la louange que je vais vous inviter à suivre maintenant au fil des pages de la Bible, selon, en suivant un itinéraire, on va dire, plus ou moins logique, j'espère, selon l'ordre du cadre biblique. Les œuvres de Dieu dans l'histoire d'Israël sont des appels à la louange. Le texte biblique, si vous voulez, s'adresse au lecteur que nous sommes, que vous êtes, et il lui dit ceci: Dieu parle, Dieu agit, et vous, comment est-ce que vous réagissez à cette parole et à cette action de Dieu? Et l'action de Dieu, eh bien, elle prend la forme d'œuvres merveilleuses, comme on le dit classiquement. Et le texte nous demande: savez-vous les voir, ces œuvres merveilleuses? Et comment réagissez-vous lorsque vous les percevez? Et le texte biblique nous montre, pour renforcer cet appel, cette interpellation, il nous montre des êtres humains qui savent percevoir, ou qui apprennent à percevoir l'action de Dieu et à s'en émerveiller. On rencontre ce schéma, à mon avis, dès le récit de la création, d'une part lorsque Dieu lui-même se trouve face à sa création, et puis ensuite lorsque l'homme et la femme sont créés et sont placés face à face. Lorsque Dieu regarde ce qu'il a créé, à chaque étape, vous connaissez ce refrain du premier chapitre de la Genèse qui nous dit « Dieu vit que cela était bon ». Dieu se réjouit en lui-même du fruit de son œuvre de création. Et le lecteur de la Bible est ainsi appelé à faire le lien entre le monde créé qu'il voit autour de lui et cette donnée théologique fondamentale que lui apportent les premiers chapitres de la Genèse. Dieu est à l'origine de tout ce qu'on voit, de tout ce qui est créé. Et donc, en faisant le lien entre les deux, eh bien, l'être humain est appelé à faire sienne cette parole du Seigneur: tout cela est bon. Et il est appelé à la louange, et à dire oui, et à chanter peut-être: ce que Dieu fait est bon, ce que Dieu fait est très bon. De même, lorsqu'Adam et Ève, ou lorsque le Seigneur, en tout cas, place face à Adam Ève, eh bien, Adam s'écrie: voici bien cette fois celle qui est eau de mes eaux, chair de ma chair, expression d'admiration devant les œuvres merveilleuses de Dieu, telles qu'elles s'inscrivent dans la réalité humaine. Donc, dans ce contexte de création qui précède la chute, l'être humain entre naturellement en contact avec les œuvres de Dieu, en présence de Dieu, et sa réaction naturelle est l'émerveillement, la reconnaissance et donc la louange. Où étais-tu, livre de Job, quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? Dans quoi les socles de ses colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle, quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie? Les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Alors évidemment, il y a ensuite l'apparition du péché au chapitre 3 de la Genèse. Cette apparition du péché ne va pas rompre le fil de la louange, une louange qui accompagnera dans la suite régulièrement la révélation de Dieu, sa parole, son action. Mais évidemment, on comprend que l'émerveillement ne sera pas la seule note qu'on va entendre. On le devine tout de suite et on s'en rend compte sans difficulté dans les pages qui suivent. De même qu'il nous est difficile à nous aujourd'hui de nous émerveiller simplement en contemplant le Mont Blanc sans penser aux glaciers qui sont en train de fondre et à la manière dont l'être humain malmène l'œuvre de Dieu, ou qu'il nous est difficile d'admirer l'intelligence artistique des êtres humains en faisant abstraction des tragédies auxquelles cette même intelligence a conduite. Oui, la louange de Dieu continue à retentir, malgré la présence du péché, ce péché qui n'a pas effacé du cœur humain, hein, l'émerveillement qui jaillit lorsque Dieu se fait connaître, mais aux expressions de louange se joignent des expressions d'incrédulité, des expressions de doute, des expressions de peur, des expressions de questionnement. Gédéon, lorsque Dieu lui parle, vous le savez, répond « Si c'est toi, donne-moi un signe ». Et Isaïe, lorsque Dieu lui parle, lui dit « Mais qui suis-je pour répondre à ta voix ?» Et donc le chemin de la louange, on le voit et on s'en rend compte, dans de multiples cas, est plus difficile à trouver. Les êtres humains tâtonnent. Bien sûr, le passage au Nouveau Testament, pour anticiper un peu ce que je dirai ensuite, ce passage au Nouveau Testament ouvrira un nouveau chemin de louange, bien éclairé, qui se fraiera une voie au travers des incrédulités humaines. Et vous savez, j'en parlais tout à l'heure, que la venue de Jésus fait naître le cantique de Marie, justement, le cantique de Siméon, l'adoration des mages, et bien d'autres, donc de tous ceux qui étaient proches comme de ceux qui étaient loin. C'est l'ultime révélation de Dieu et elle suscite la louange. Mais le doute ne disparaîtra pas, on le verra, pas plus que les défaillances et les fautes humaines, sauf que la lumière du Christ viendra briller dans les ténèbres humaines et fera naître un peu partout des paroles et des chants de louange. Quoi qu'il en soit, pour revenir au récit des origines après la chute, donc la louange continue à retentir sous diverses formes et les croyants construisent. En réponse à la révélation de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob construisent des autels. Des autels en expression de leur reconnaissance, mais aussi pour nourrir la reconnaissance de ceux qui viendront après eux, leurs descendants. Ces autels, en sautant les étapes, vous m'en excuserez, ces autels conduiront à la construction de sanctuaires plus élaborés, du tabernacle, à la dimension symbolique et artistique très marquée, très sophistiquée, et puis jusqu'au temple, avec son système cultuel très élaboré. Dans ce système du temple, les sacrifices, on le sait, occupent une place importante, et ces sacrifices sont significatifs de l'ambiguïté du rapport entre les êtres humains et Dieu. Oui, on peut offrir des sacrifices de repentance, on le sait bien, mais on peut aussi offrir des sacrifices pour rien, en quelque sorte. Des sacrifices qui sont porteurs d'aucune demande, des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices de louange, comme le prévoit la loi. Cette loi qui dit ceci concernant les sacrifices de communion que l'on offre à l'Éternel, si on l'offre comme une expression de reconnaissance, donc c'est Lévitique 7, on offrira avec ce sacrifice de reconnaissance des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, arrosées d'huile. La viande du sacrifice de communion, offerte par reconnaissance, sera mangée le jour où on l'offre. On n'en laissera rien jusqu'au lendemain matin. Je ne sais pas si la cuisine est un art, mais probablement oui. En tout cas, ici, on voit que la cuisine est mise au service de la reconnaissance. Ces sacrifices, mais aussi de nombreux autres indices et événements, montrent que la louange, en tant qu'expression d'un rapport à Dieu marqué par la vérité, la transparence, l'amour, l'émerveillement, eh bien, cette louange ne va pas de soi. C'est le cas depuis le récit de la chute. Mais il est frappant de constater que les modalités du culte du tabernacle et du culte du temple ne disent aucunement quelque chose du genre « Écoutez, c'est vrai qu'avec le péché, le culte est devenu un peu compliqué, le rapport à Dieu c'est devenu plus ambigu, mais restons simples, restons sincères, c'est ça qui compte. » Pas du tout. Ça n'apparaît pas du tout dans le texte biblique, ce n'est pas le cas, la sincérité n'est pas suffisante, et l'expression de l'adoration de Dieu doit passer par le respect des instructions de Dieu. En fait, le problème, c'est que la louange est guettée par l'idolâtrie. On témoigne le fameux épisode du veau d'or dans lequel le peuple bascule de l'adoration de Dieu à l'adoration d'une statue bien visible, du Dieu invisible à la statue visible. Mais on témoigne aussi d'autres épisodes tragiques de l'histoire d'Israël. Et la vraie louange consiste à ramener les croyants de l'idolâtrie vers le vrai Dieu. On pourrait dire que la louange est une antidote contre l'idolâtrie. Et vous savez que les prophètes devront rappeler sans cesse aux Israélites que l'adoration, la louange n'est pas une simple pratique, qu'elle est un mode de vie, qu'elle est un rapport à Dieu, qu'elle est un état d'esprit. Et bien sûr, cela, le Nouveau Testament le généralisera de manière frappante. Progressivement donc, dans la vie d'Israël, le culte se stabilise en un lieu précis, le temple de Jérusalem. La louange s'enrichit, et là les artistes apprécieront, en particulier sous le règne de David, la construction du temple à laquelle participent tous les Israélites par leurs dons, fait naître en David une prière de louange. « Loué sois-tu à jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël, à toi Éternel appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence et la gloire et la majesté. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Le temple comme lieu de louange. Tout le peuple est invité à se joindre à cette louange. Vous tous louer l'Éternel. Et c'est ce que fait l'Assemblée en se prosternant, en offrant des sacrifices en quantité, en se réjouissant. À ce moment-là, la dimension artistique et esthétique de la louange s'enrichit, d'après le livre des Chroniques. Elle s'enrichit d'instruments, d'instrumentistes, de cérémonies qui ont parfois inspiré la louange contemporaine. Un exemple, deux Chroniques, 5. Les trompettistes, les musiciens jouèrent ensemble à l'unisson pour louer et célébrer l'Éternel. Les musiciens firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et louèrent l'Éternel en chantant « Car il est bon, enfin des psaumes, car son amour dura toujours. » Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuée. C'était au point que les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Plus généralement, parce que ce moment est un moment particulier, c'est l'inauguration, mais plus généralement, David institue dans leur service, devant le coffre de l'Éternel, dans le temple, un certain nombre de lévites qui avaient pour fonction de célébrer l'Éternel et de le louer. Et bien plus tard, pour montrer que ça se poursuit dans l'histoire d'Israël, et bien le roi Ézéchias confirmera les prêtres et les lévites dans cette fonction de s'occuper des sacrifices de communion, de s'occuper du service, de s'occuper du chant des cantiques, de louange et de reconnaissance. Oui, le peuple d'Israël est bien un peuple d'adorateurs. Sa louange a son lieu, elle a ses conducteurs, les prêtres, les lévites, elle a ses musiciens, elle a ses chanteurs, elle a ses règles. On peut dire que l'adoration n'est pas annexe à la vie d'Israël, elle n'est pas accessoire, mais elle est au cœur de la vie collective d'Israël, de même que dans le désert, eh bien, le tabernacle était au centre du campement, au centre des tentes des familles d'Israël. Et cette réalité, on le sait bien, trouvera un prolongement frappant dans le Nouveau Testament, puisque dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu est un peuple d'adorateurs, un peuple de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Je veux dire en passant, entre parenthèses, il faut bien comprendre que dans le passage de l'Ancien au Nouveau Testament, ce ne sont pas les pasteurs ou les musiciens qui sont les prêtres de l'Ancien Testament, mais ce sont tous les croyants, une communauté de prêtres qui célèbrent le Seigneur. Avant d'aller plus loin, il faut mentionner simplement, en passant, mais c'est un point fondamental, le point culminant de la louange de l'Ancien Testament, la traversée de la mer Rouge. Ce moment typique du salut de Dieu, de l'intervention salvatrice de Dieu par excellence, ce moment de salut qui donne immédiatement naissance à deux cantiques de louange, le cantique de Moïse, qui célèbre l'action de Dieu, qui célèbre l'amour de Dieu pour son peuple, qui célèbre le règne éternel de Dieu, et puis le cantique de Myriam, qui lui répond par des danses, par des tambourins, chanté pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Cet événement-là, la traversée de la mer Rouge, cette manifestation du salut de Dieu qui suscite la louange, eh bien, cela va servir de modèle de la relation du peuple d'Israël avec son Dieu. Et donc tout cela reviendra régulièrement au fil des pages du texte biblique des Écrits d'Israël. Ne pas consacrer un moment au livre des psaumes, on parle de louange, ça serait étonnant. Ça serait même probablement une faute que je ne vais pas faire. Puisqu'en hébreu, le livre des psaumes est appelé tout simplement louange, le livre des louanges. Et ce serait encore plus étonnant de l'oublier pour quelqu'un qui connaît, et c'est que vous êtes sûrement des lecteurs des psaumes, qui connaît l'orientation générale du livre des psaumes. Puisque c'est un livre qui, dans son ensemble, conduit à la louange. C'est frappant. Évidemment, pour le constater, il faut ne pas se contenter de lire un psaume par-ci, un psaume par-là, il faudrait avoir une vue d'ensemble du psautier, et donc lire les psaumes les uns après les autres, et on constaterait que l'expression de la louange s'intensifie au fil de la dernière partie, si vous voulez, le dernier tiers du livre des psaumes, et plus précisément, encore dans les tout derniers psaumes, vous avez une sorte de crescendo de louange qui conduit jusqu'au psaume 150, et cette symbolique est très intéressante, cette symbolique du crescendo. Et le psaume 150, lui, est entièrement consacré à la louange, sans autre note qui vienne concurrencer cette célébration des œuvres de Dieu et de sa grandeur. Louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire, Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour sa grandeur infinie. Louez-le au son du cor. Louez-le au son du luth et de la cithare. Louez-le avec les danses et au son des tambourins. On trouve le lien au cantique de Myriam. Louez-le avec la lyre et avec la flûte. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Louez-le par les cymbales résonnantes avec éclat. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Ça, c'est l'aboutissement du livre des psaumes, d'un chemin de louange bien, bien particulier. Et dans tous les cas, les lecteurs chrétiens du psaume savent, et les autres aussi d'ailleurs, les lecteurs des psaumes, disons, savent qu'il y a, à chaque page du livre des psaumes, un ou des cris de louange. Ceci dit, si l'orientation du livre des psaumes vers la louange ne fait aucun doute, le livre des psaumes est aussi intéressant pour notre sujet par ce qu'il dit du chemin de la louange. La louange du livre des psaumes traverse la condition humaine dans toute sa diversité. Fragilité, précarité, détresse, mais aussi assurance, mais aussi joie, et peine, etc. Elle côtoie la louange sur ce chemin qu'elle parcourt d'autres formes d'expression de la foi. Elle côtoie l'intercession, elle côtoie l'appel au secours, l'expression du doute, le questionnement, etc. Le livre des psaumes, donc, confirme la place importante qu'occupe la louange dans la vie collective, dans la vie individuelle aussi du peuple de Dieu. Mais la lecture du livre des psaumes nous dessine une louange qui est fortement teintée de réalisme. Une louange qui n'est pas seulement assurance, mais qui est aussi aspiration. Une louange qui n'efface pas l'insatisfaction, qui n'efface pas la protestation, qui n'efface pas l'intercession et d'autres formes d'expression de la foi, comme le suggère par exemple en quelques lignes le psaume 54. Dieu intervient, sauve-moi, écoute ma prière. Des violents en veulent à ma vie. Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon seul appui. Que Dieu fasse retomber sur mes ennemis le mal qu'ils me voulaient. Et on arrive à la louange, je te louerai, car tu es bon, car tu m'as délivré. Je chante les louanges de Dieu. On reproche parfois aux cantiques contemporains leur formulation quelque peu excessive, du genre, je ne vais pas citer un cantique pour ne pas stigmatiser un numéro, mais ce genre, mon amour pour toi Seigneur est tellement fort, tellement puissant, tellement grand que je ne sais même pas comment l'exprimer, ce qui est quand même un peu fort de café, on va dire. Et je pense que la critique n'est pas sans fondement. Mais vous noterez que le livre des psaumes, s'il semble équilibré en ce qu'il alterne différents modes d'expression de la foi, est aussi très excessif dans ses formulations. Le psalmiste ne remercie pas Dieu. Il crie de joie. Il ne lui suffit pas des cantiques habituels. Il lui faut un cantique nouveau. Il ne dit pas, chers amis, levons-nous, nous allons chanter un petit chant. Il appelle l'assemblée et la terre entière à se lever et à entonner avec lui un cantique nouveau. Et je remarque en passant que la force de la louange, de ces expressions de louange du psalmiste, répondent à la force de sa plainte. Il n'y a pas que la louange qui est forte, il y a aussi la plainte. Le psalmiste n'est pas fatigué, il est sans force. Il ne pleure pas, mais il pleure toute la nuit, il éclate en sanglots, il remplit son lit de larmes. Il n'a pas affaire à des gens pénibles, mais à des lions qui pourraient le mettre en pièces. Il n'est pas malade, mais il est quasi mort. Et il ne guérit pas, mais il remonte du séjour des morts. Donc les expressions de louange des psaumes, comme les expressions de plainte, sont très très fortes. Et du coup, vous avez un recueil dans le livre des psaumes avec lequel le chrétien moderne a parfois du mal à s'identifier, à cause des excès dont je viens de parler. Mais pourtant, ces mêmes paroles excessives, au fil des circonstances de la vie, belles et aussi tragiques, eh bien, elles donnent des mots, on le sait, à la fois. Et Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle, parlait à propos des psaumes de prières de feu, de prières de force, de prières de chaleur. Alors voilà, au niveau du contenu, la louange du livre des psaumes est riche. Il y a bien sûr la reconnaissance, le fidèle dit ce que Dieu a fait pour lui et il en tire des louanges. Il y a plus généralement la célébration de la personne de Dieu, des œuvres de Dieu. Il y a aussi la célébration de la grandeur de Dieu, son éternité. Et cette éternité, elle est d'autant plus frappante que la vie humaine, elle est précaire, elle est limitée. Et si vous voulez, c'est le contraste entre l'éternité de Dieu et la précarité de la vie humaine qui fait jaillir la louange dans le livre des psaumes. Il y a le Dieu créateur qui est célébré également. Il y a la souveraineté de Dieu qui est célébrée, qui est un sujet de louange. Et puis, du côté des œuvres de Dieu qui suscitent la reconnaissance, il y a bien sûr en premier lieu le salut. Dieu sauve, Dieu agit, Dieu intervient en faveur de son peuple. Et ça, c'est merveilleux, ça, c'est étonnant, ça, c'est impressionnant. Mais il y a aussi, bien sûr, la relation, tout simplement, entre Dieu et son peuple, qui est une occasion de louange. Loué soit le Dieu qui a créé un peuple pour qu'il lui appartienne. Dieu, son peuple, cette relation, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Sujet de louange. Lorsqu'on sort de l'Ancien Testament, parce qu'il faut en sortir à un moment donné, parce que le temps passe, et qu'on entre dans le Nouveau Testament, il y a deux choses fondamentales qu'il faut rappeler peut-être, qui se produisent et qui touchent à la louange. Tout d'abord, il y a ce qu'on pourrait qualifier de concentration cultuelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire que les principales dimensions du culte de l'Ancien Testament, je viens de lui faire allusion, hein, en tout cas à certaines, eh bien, elles se rejoignent en Jésus-Christ. Il est le temple, donc il est le lieu du culte. Il est le prêtre, donc il est celui qui offre le sacrifice. Mais il est aussi le sacrifice, parce qu'il est l'agneau. Et donc, la louange du Nouveau Testament sera christologique, ou ne sera pas. Et puis, dans le Nouveau Testament, on passe de lieu et de temps qui étaient réservés à l'adoration, Ancien Testament, à l'ensemble de la vie, Nouveau Testament. Alors il faut quand même préciser quand on dit cela que ce n'est pas une nouveauté complète parce que les prophètes le disaient déjà. Les prophètes disaient que les pratiques ou les jours n'avaient pas de sens en eux-mêmes, en elles-mêmes. Mais disons que cette orientation-là se généralise dans le Nouveau Testament. Ce ne sont plus les fêtes, ce ne sont plus les lieux, ce ne sont plus les fonctions, ce ne sont plus les procédures qui font le culte, mais c'est l'ensemble du peuple de Dieu, tous sont prêtres, je dis, quels que soient les lieux et les temps, donc partout et toujours, et le peuple de Dieu dans sa façon de vivre, et pas seulement dans sa façon de venir au culte le dimanche matin ou le vendredi soir. La louange, donc, lorsqu'on entre dans le Nouveau Testament, change de régime. Les expressions de louange nombreuses qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament sont la partie émergée d'une réalité qui est beaucoup plus profonde. Le peuple de Dieu adore le Seigneur par l'accomplissement quotidien de sa mission de service et de témoignage. Ceci dit, la louange comme expression de la foi ne disparaît pas, nous allons le voir, mais il faut comprendre qu'elle naît d'un état d'esprit qui touche toute la vie des chrétiens et de l'Église. Mais avant d'aller plus loin, il faut noter en particulier d'un point de vue artistique les cantiques de louange que suscite l'irruption du royaume des cieux dans le monde des humains. On a l'habitude de dire, à juste titre, hein, que le royaume, que le roi, Jésus-Christ, quand ils arrivent, rencontrent l'opposition. Et c'est vrai. Mais cette venue suscite aussi des chants de louanges. Il faut cependant reconnaître que les deux partitions ne sont pas équilibrées. L'opposition a plus de moyens que la louange. Du côté de la louange, il ne faut pas s'attendre à des chorales, à part celle des anges. L'évangile de Luc mentionne le cantique d'une très jeune femme, Marie, le cantique d'un homme très âgé, Zacharie, le cantique d'un autre homme apparemment aussi très âgé, un solitaire qui vit dans le temple, Siméon. Et puis à ces trois cantiques, Luc ajoute aussi celui d'une autre femme très âgée, Anne la prophétesse, veuve, 84 ans, mais il ne cite pas explicitement son cantique. Alors, je m'y arrête un instant, vous avez le cantique de Marie, le Magnificat. Magnificat, ça vient du premier mot du cantique en latin. Je magnifie le Seigneur, un cantique de louange prophétique, dans lequel Marie exprime sa reconnaissance à Dieu pour les bienfaits, ses bienfaits, et pour le salut qui est sur le point d'arriver. Vous avez le Benedictus, le cantique de Zacharie. Benedictus, encore une fois, et ça sera vrai pour la suite, c'est le premier mot du cantique. Béni, loué. Cantique de louange, adressé à Dieu pour son salut. Dieu qui a envoyé un libérateur pour son peuple. Cantique de Siméon, Nomnibitis. Là encore, c'est le premier mot. Maintenant, elle est salée. Premier mot du cantique qui exprime la joie et la reconnaissance de Siméon parce qu'il a vu le Sauveur, il a vu la lumière des nations. Donc voilà la chorale de louanges qui accueille le royaume, des vieillards et une jeune fille. Sauf que cette louange terrestre modeste est portée par la louange du cœur céleste. Nous dit Luc, une multitude d'anges chantaient les louanges de Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ça c'est le Gloria, premier mot également. D'ailleurs, il y a aussi des bergers, la chorale des bergers, je n'ai pas mentionné, qui louent Dieu, mais bon, ce sont des bergers, là, ce ne sont pas des fils de rois, donc c'est modeste. Ce n'est donc pas, si vous voulez, le tout genou fléchira, toute langue confessera, qu'on aurait pu attendre, mais c'est une louange terrestre, modeste, dont la valeur est cependant démontrée par la répétition, par la citation des cantiques, et aussi par le soutien céleste. Cette réaction initiale des croyants à la venue de Jésus connaîtra différents rebonds d'adoration, de louange dans la suite du récit des évangiles, des rebonds toujours modestes, mais visiblement reçus comme exemplaires, car ils sont présents dans les récits bibliques et ils sont présentés sans réserve. Les mages qui viennent adorer Jésus, la femme au parfum qui répand sur Jésus un parfum de grande valeur, des malades, des disciples, d'autres, qui s'approche de Jésus et qui se prosterne devant lui. Ces expressions d'adoration ne correspondent d'ailleurs pas nécessairement à la louange exubérante qu'on voit par ailleurs, mais elles fonctionnent de la même manière. L'être humain se retrouve face à la révélation de Dieu et il réagit à cette révélation. Des hommes et des femmes qui sont réceptifs à la venue du royaume des cieux et qui réagissent à cette révélation, à cette venue par la louange, par l'adoration, par l'émerveillement, et qui, à leur tour, suscite la louange de Jésus lui-même. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées aux petits. Ce que nous appelons culte dans le Nouveau Testament, le rassemblement régulier des croyants, vous savez que le mot n'est pas dans le Nouveau Testament, mais il s'agit des moments où l'Église se rassemble. Et ces rassemblements communautaires ne sont peut-être pas louanges en premier lieu, ça pourrait se discuter, mais ils le sont en tant que moment particulier de la vie d'une Église dont la consécration quotidienne à Dieu est louange, est un culte. Les données bibliques montrent que les rassemblements de l'Église sont des temps privilégiés de la présence de Dieu, même si Dieu est présent dans ce qu'on pourrait appeler le culte quotidien, dans le service quotidien des croyants, dans l'exécution de leur vocation ordinaire. Mais l'image du temple, dans la première épître aux Corinthiens, vous êtes le temple de Dieu, cette image rappelle la présence de Dieu particulière auprès de la communauté rassemblée, qui est le temple de Dieu. Cette théologie du culte, qui touche la louange, et qui fait le lien entre le vécu quotidien des croyants et leur rassemblement régulier, est quelque chose qu'il faut bien intégrer quand on veut participer à l'animation des cultes en tant que prédicateur, président de culte, conducteur de louanges, musicien, artiste, lecteur et autres intervenants. L'événement du culte, c'est-à-dire l'événement hebdomadaire pour simplifier, s'inscrit dans l'ordinaire du quotidien. Et il y aurait risque à vouloir vivre l'expérience collective et esthétique culte chrétien sans s'investir dans le service quotidien ordinaire. Ceci dit, la place de la louange dans le culte chrétien est remarquablement résumée par deux versets parallèles de l'épître aux Éphésiens et aux Colossiens qui sont significatifs. Vous vous encouragerez, Éphésiens, mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit, vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Et puis en Colossiens, texte parallèle, que la parole du Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. La louange, avant d'être une pratique particulière, qui consisterait par exemple à chanter ou à prier pendant tant de minutes dans le cadre du culte, la louange est l'état d'esprit du culte chrétien. Elle est aussi une pratique particulière, faite de chants, faite de prières, faite de lectures bibliques et autres, puisqu'on la retrouve dans toutes les liturgies chrétiennes, mais les chrétiens de la première église de Jérusalem, lorsqu'ils se retrouvaient, rompaient le pain dans les maisons, acte 2, prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur, et louaient Dieu. Avant d'être un moment du culte, qu'on pourrait caser entre l'accueil et la prédication par exemple, eh bien, la louange appartient à tout le reste. Elle est l'état d'esprit de l'ensemble du culte. L'offrande est une expression de louange. Merci Seigneur pour ta générosité, merci pour tous tes dons. La lecture de la Bible est louange. Merci Seigneur pour ta parole, cette parole qui nous renouvelle, cette parole qui nous exhorte. La scène est louange. Merci notre Père d'avoir tant aimé le monde que tu as donné Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Nous avons vu que la naissance de l'Église est accueillie, la naissance de Jésus, pardon, est accueillie par les chants de louange. Et bien, il en est de même de la naissance de l'Église. J'en dis un petit mot maintenant. Dans le récit de la venue du Saint-Esprit sur les croyants rassemblés en acte 2, eh bien, c'est le constat que font les spectateurs. Les disciples parlent des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Autrement dit, ils célèbrent les œuvres de Dieu. Et en plus, vous le savez, les auditeurs entendent ces louanges dans leur propre langue. Et ce schéma-là, on va le retrouver dans la suite du Nouveau Testament. L'Église est réunie, elle est conduite par le Saint-Esprit et elle exprime ses louanges. On le retrouve très vite d'ailleurs, un tout petit peu plus loin, toujours en acte 2, dans un texte fondateur qui vise à montrer ce qui est désormais la régularité des pratiques de l'Église. Tous les jours, d'un commun accord, j'y ai fait allusion tout à l'heure, les croyants se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur repas dans la joie, ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Donc une pratique collective dont la forme n'est pas précisée, mais qui n'est pas, on le note en passant, à caractère interne, puisqu'elle se déroule en présence de tout le peuple. Cette louange n'est d'ailleurs pas strictement attachée au rassemblement de l'Église, puisque en prison, Paul et Silas, acte 16, priaient et chantaient les louanges de Dieu, là où deux ou trois sont rassemblés. Ce que les épîtres vont généraliser en disant ceci: remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je cite juste à ce propos deux textes de la première épître de Pierre et de l'épître aux Hébreux qui montrent que les sacrifices du culte de l'Ancien Testament deviennent des sacrifices spirituels dans le Nouveau Testament, des sacrifices spirituels qui ont une coloration de louange, puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, 1 Pierre, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Et dans le contexte, ces sacrifices spirituels, eh bien, ils consistent à quoi ? À célébrer bien haut les œuvres merveilleuses que celui qui vous a appelé à passer, de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, par Jésus, offrons en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Concernant le culte chrétien, vous savez que ce qui nous manque dans le Nouveau Testament, c'est le déroulement d'un culte, le déroulement type d'un culte. Un culte qui nous permettrait de situer la louange dans, comme pratique cultuelle, dans sa forme, dans son ampleur, dans sa longueur, peut-être dans sa philosophie. Mais nous n'avons rien de ce genre. Cependant, comme pour d'autres sujets, eh bien nous avons ici et là, au fil des pages du Nouveau Testament, des fenêtres ouvertes, ou parfois simplement entrouvertes, sur le culte des premières églises. Et ces fenêtres sont notamment des cantiques, ou de probable cantique, parce qu'il faudrait décider au cas par cas, qui étaient chantés dans les églises ou peut-être qui étaient priés simplement dans les églises. Ces cantiques nous permettent de goûter à la louange des premières églises. Le plus connu, vous allez le comprendre, c'est de Philippiens 2, qui célèbre le Christ divin, mais aussi le Christ qui a été prêt à s'abaisser jusqu'au point de la croix pour le bien de l'humanité. Et puis également le Christ qui est élevé par Dieu et devant qui tout genou fléchira. Divers chants de louange se sont inspirés de, bien sûr, de ce cantique. Et on pourrait citer d'autres exemples dans le Nouveau Testament, peut-être Colossiens 1, où vous avez un cantique qui célèbre le Christ qui a pris part à la création, donc le Christ créateur, et qui est de même au premier rang de la nouvelle création, donc présent dans la création originelle, présent dans la nouvelle création, mais aussi le Christ, et c'est bien le même qui a versé son sang sur la croix. Et on pourrait en citer d'autres, comme à Timothée 3,16, Éphésiens 1, 3 à 14, mais ce qu'on peut simplement dire à ce stade, c'est que ces cantiques sont christologiques, c'est-à-dire qu'ils célèbrent Jésus-Christ, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ est au cœur de la louange chrétienne, c'est ce qui fait sa spécificité. Et même un observateur extérieur comme Pline le Jeune au 1er siècle le notait lorsqu'il écrivait dans une de ses lettres que les chrétiens ont l'habitude de se réunir à un jour fixe avant le lever du soleil, bon, ça fait un peu tôt, hein, mais pour chanter entre eux alternativement un hymne au Christ comme à un Dieu. Nous ne savons pas exactement comment se passait le culte des premières églises, et nous ne savons pas non plus quelle place y occupait le chant, mais nous savons que Jésus-Christ était au cœur de la louange et du culte des premiers chrétiens. J'ai plus que 2 points, ça va aller. Ils seront courts. La louange apparaît aussi, je trouve que c'est intéressant de le mentionner, là où on ne l'attend pas. Je suppose que nous serions globalement d'accord pour dire que les épîtres de Paul ont une visée d'enseignement, qu'elle cherche à instruire l'Église, qu'elle cherche à construire la foi collective des chrétiens, qu'elle cherche à les encourager, mais il est frappant de constater que toutes ces épîtres, sauf une, commencent par une prière de louange. Alors laquelle est-ce qui manque? C'est Galate, l'épître aux Galates. Paul exprime sa reconnaissance à Dieu, toujours au début des épîtres, pour son œuvre dans la vie des chrétiens auxquels il écrit. Ce qui veut dire que l'enseignement de l'Église est ainsi placé sous le signe de la louange. Et cette louange, au début des épîtres, elle n'est pas un plus, elle n'est pas un à côté, elle n'est pas un post-scriptum qui viendrait au début, sans rapport avec tout le reste. D'une part, elle est ancrée dans la réalité du vécu des chrétiens, donc elle n'est pas abstraite. C'est ce que Paul voit dans la vie des chrétiens, ou ce qu'il entend dire de la vie des chrétiens, qui nourrit sa louange, leur foi, leur don, leur relation, leur amour pour les autres, etc. C'est tout cela qui lui fait dire « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu. » Et puis d'autre part, cette louange prépare l'enseignement qui va suivre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas une louange générique, transportable à tout autre lieu ou à tout autre temps, qu'on pourrait placer n'importe quand, mais c'est une louange colorée par une communauté chrétienne dans laquelle Dieu agit de façon spécifique et à laquelle Dieu parle de façon spécifique. Et enfin, et ce sera mon dernier mot, il faut mentionner la louange de l'Apocalypse. Un livre qui n'est pas forcément connu comme un livre de louange, mais enfin, un livre qui contient des paroles de louange, des scènes de louange, une louange qui fait le lien entre le ciel et la terre, qui fait le lien entre le présent et l'avenir. L'Apocalypse contient diverses scènes dans lesquelles on peut entendre des chœurs de louange, et c'est d'autant plus frappant que le passage d'entrée dans l'Apocalypse, hein, les 7 églises des premiers chapitres, ne sont pas connues pour leur louange. Enfin, ce sont des églises qui connaissent des troubles, qui connaissent des luttes, et plus globalement, on pourrait dire que la tonalité de l'Apocalypse est assez sombre. Mais l'Apocalypse dit aussi ceci à ses lecteurs, la louange, cette célébration du Seigneur, cette célébration de l'Évangile que nous pratiquons régulièrement de diverses manières, souvent modestement, surtout si on observe d'un point de vue artistique, cette louange-là, elle ne se limite pas à ce qui se voit. À l'arrière-plan de cette louange, en soutien de cette louange, il y a une chorale. Ça fait un peu, c'est un petit peu comme dans ces fêtes de Noël où vous avez un groupe de petits enfants, de petits gamins là, qui chantent un chant de Noël. Et puis vous savez que derrière, caché ou devant à la copie, il y a les monitrices d'école du dimanche avec le micro qui, par leur voix, soutiennent la petite chorale des enfants. Eh bien, à l'arrière-plan, nous dit l'Apocalypse, de la modeste voix de l'Église qui chante les louanges de Dieu, il y a dans le monde céleste, dans la présence de Dieu, une louange forte, une louange universelle, une louange qui renforce ce que nous pouvons chanter, ce que nous pouvons exprimer par nos dons artistiques ou par nos paroles. Bien sûr, on ne voit pas ce support musical, ce support vocal, il est invisible, mais nous savons que la réalité ne se limite pas à ce qu'on voit, et l'Apocalypse a justement pour fonction de nous ouvrir les yeux et de nous montrer l'invisible. Pourquoi nous montrer l'invisible ? Eh bien, pour que nous puissions vivre dans le présent, dans le visible, d'une autre manière, à la lumière de ce que le Seigneur fait, de ce que le Seigneur dit, de ce qui se passe dans la proximité de Dieu, dans le monde céleste. J'ai terminé, merci de votre attention.
Bon, nous avons le temps pour quelques questions. Il y aura la table ronde aussi tout à l'heure, mais on a encore quelques minutes. Donc si quelqu'un a une question à poser à Christophe, ça va.
Toute petite question. Toute petite question par rapport à la situation de Pline. Qu'est-ce que vous voulez dire alternative ?
Mais en fait, je ne sais pas trop. En fait, justement, on ne sait pas très bien comment les chrétiens chantaient, mais on peut imaginer des effets de réponse, ou quelqu'un qui dit quelque chose et d'autres qui répondent, comme on le fait parfois dans nos églises d'ailleurs, hein. Mais on sent qu'il y a une forme vocale qui est particulière, mais on n'a pas, en tout cas je n'ai pas, mais à ma connaissance, on n'a pas exactement la signification de cette pratique. Alors il y a des pratiques plus tard dans l'histoire de l'Église qui vont dans ce sens, mais est-ce qu'on peut les projeter jusqu'au 1er siècle ? Pas sûr.
Moi, j'avais une question, donc je vais la poser. Tu as parlé de temple de l'Esprit Saint comme un temple communautaire, plutôt que temple en tant qu'individu, on est le temple de l'Esprit Saint. Donc, je voulais savoir, voilà, est-ce que c'est ça en fait, quand on réunit en église, on est temple.
Oui, c'est ça. Non, en fait, c'est un peu plus subtil que ça. Dans la première épître aux Corinthiens, il y a une double dimension qui est un très bel équilibre, je trouve. Il y a votre corps et le temple du Saint-Esprit. Donc, en tant que croyant individuellement, en tant que personne, au service de Dieu, hein, pas n'importe comment, mais au service de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, par moi, le Saint-Esprit agit. Ou j'agis par le Saint-Esprit, je ne sais pas. Et puis, il y a dans la même première épître aux Corinthiens, il y a un autre verset qui dit « Vous êtes », et là, c'est collectif, de toute évidence, vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire vous, communauté rassemblée, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que, et là comment le définir exactement, c'est pas facile, mais il y a une présence particulière de Dieu au moment où la communauté est rassemblée, sachant que cette présence de Dieu, elle vaut aussi pour la totalité de la vie, donc c'est pas que Dieu soit absent le reste du temps, mais Dieu est présent d'une manière spéciale lorsque sa communauté, ses enfants se réunissent. Pour l'édification, pour la louange, etc. Donc il y a cette double dimension qui est, je trouve, très, très intéressante et qui équilibre bien, soit d'un côté nos tendances individualistes, qui me feraient dire, bah, moi je suis le temple du Saint-Esprit, oui, mais attention, la communauté est aussi, ou alors une tendance dans d'autres moments, peut-être à dissoudre l'individuel dans le communautaire, pour dire, le chrétien, même lorsque l'Église est séparée, est aussi temple du Saint-Esprit, temple de Dieu. Oui.
Alors, j'ai une question. D'après les multiples facettes que tu viens de nous montrer, la louange est présente, les instruments aussi. Alors, pour quelles raisons certaines églises sont réticentes à l'utilisation d'instruments de musique ? Et pourquoi d'autres sont en excès, je dirais, Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais on trouve pas mal d'instruments. Donc, du coup, quelle est la raison? Est-elle bibliquement fondée ou ça relève du choix de la tendance de la mise?
Oui, merci, c'est une bonne question. Je ne vais pas me prononcer, mais ce débat existe depuis longtemps. Il faut reconnaître que les instruments sont dans l'Ancien Testament, mais il faut remarquer les gens qui n'aiment pas trop les instruments de musique. Dans le Nouveau Testament, il faut vraiment chercher pour trouver les instruments de musique. Donc ça, c'est un élément du dossier qui fait que certains ont dit que l'instrumentation, c'était l'Ancienne Alliance, et dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus l'instrument par excellence, c'est la voix. Et c'est elle qui doit être occupée de l'espace de la louange. C'est ce qui fait que, par exemple, au moment de la réforme protestante, hein, au XVIe siècle, vous avez certains courants protestants, hein, certains courants de la réforme qui ont refusé le chant, l'accompagnement musical des instruments. Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui, en s'appuyant pas seulement sur les données bibliques, mais aussi sur d'autres choses, et en particulier la culture, c'est-à-dire le rôle des instruments dans une culture donnée qui peut être perçue péjorativement, et notamment il y a une certaine... J'ai l'impression que dans l'histoire de l'Église, plusieurs grands personnages, depuis Augustin jusqu'à Calvin et d'autres jusqu'à aujourd'hui, il y a un regard qui est porté sur la musique instrumentale en particulier, qui est un regard un petit peu méfiant. On sait que la musique aujourd'hui, parce que ouais, des gens qui font des travaux sur la psychologie de la musique, hein, c'est une expérience. C'est pas juste j'écoute quelque chose qui passe dans mes écouteurs, c'est une expérience. Et quand c'est collectif, c'est une expérience collective, et on sait que cette expérience collective, elle produit des effets dans la vie des personnes. Et donc, il y a une certaine méfiance qui a régné au fil de l'histoire de l'Église, et qu'on rattache au fait que, par exemple, quand Jésus rassemble ses disciples autour de lui, ben, ils ne sortent pas les guitares pour jeter des cantiques. Hein. Jésus les enseigne. Donc il y a une sobriété dans le Nouveau Testament que certains reprennent pour dire « attention, pas trop de jeux d'instruments de musique ». Aujourd'hui, la majorité des églises quand même acceptent les instruments de musique. Mais il faut savoir qu'il y a ce débat, et le débat vaut aussi pour ce qu'on peut chanter. Quelles paroles, hein, est-ce qu'on chante des textes bibliques? Est-ce qu'on chante des cantiques inspirés des textes bibliques, ou est-ce qu'on chante ce qu'on a envie de chanter? Voilà, il y a des degrés, et certains disent non, il faut chanter que des textes bibliques. Ça, on le retrouve dans certains courants de la Réforme aussi. C'est-à-dire, on va chanter des psaumes ou autres. D'autres sont un peu plus ouverts et disent on peut chanter des cantiques du moment qui sont d'esprit biblique, si vous voulez, inspirés de l'Écriture. Donc voilà, il y a ce débat à la fois sur les instruments et sur le contenu des cantiques.
Merci. En commentaire d'une question, vous avez dit que parfois les psaumes peuvent nous paraître excessifs à leur formulation. Je crois que c'est très vrai pour nous, chrétiens occidentaux, qui vivons dans un monde de relative liberté. Mais quand on voit ce qui se passe dans notre pays, quand on lit ce qui se passe, quand on lit par exemple les documents de l'association Portes Ouvertes, sur la persécution que souffrent certains chrétiens, on imagine très bien un certain nombre de chrétiens du Moyen-Orient, d'Érythrée, d'Israël, des pays comme cela, implorant Dieu et le suppliant de la façon dont le font les psalmistes de l'Ancien Testament.
Moi j'aurais une question. Est-ce que tu dirais que la louange est réservée à un style musical, ou qu'on peut avoir différents styles de louange comme du dessin ou de la sculpture ou autre?
Oui, alors je réagis juste un instant sur l'expression des psaumes, c'est tout à fait vrai. Mais même sans aller loin de chez nous, il suffit de passer par un moment d'exaltation personnelle ou un moment de tragédie personnelle pour se retrouver pleinement dans l'expression des psaumes. Là où on est mal à l'aise, c'est quand on a une petite vie modérée, où il ne se passe pas grand-chose. Là, c'est vrai qu'on est un petit peu gêné par certaines paroles des psaumes à certains moments, mais on s'y retrouve assez vite au fil des expériences fortes de la vie. Alors sur la pratique de la louange, je pense qu'il faut bien dire, et aujourd'hui les musiciens le disent et le savent, la louange n'est pas égale à la musique, c'est pas monde égale musique, c'est une équation qui est erronée, même si c'est frappant de constater l'évolution des mots, puisqu'aujourd'hui, quand on dit louange, on dit musique, assez souvent. On va avoir un moment de louange, et bien on a un moment de musique. Moi, quand j'étais jeune, on disait dans l'église, on va avoir un moment de louange, et ça voulait dire on va avoir un moment de prière. Donc le mot s'est déplacé. Bon, peu importe les mots, on a bien le sens qu'on veut leur donner, il suffit de se mettre d'accord. Mais assurément, on a tout intérêt à enrichir l'expression de la louange. Alors, je ne suis pas expert dans tous les domaines, ni dans aucun domaine d'ailleurs de l'art, mais évidemment la musique se prête très bien à la louange, comme le chant, parce que comme expression collective, c'est idéal. C'est idéal, hein, le chant, c'est l'expression collective par excellence. Mais il y a d'autres moyens qui peuvent être employés et qu'on gagnerait peut-être à employer. Évidemment, ça suppose une démarche critique, ça suppose une démarche de réflexion, sachant que nous venons d'une tradition, pour ceux qui s'inscrivent dans la tradition protestante, qui est plutôt sobre en matière d'expression de la louange ou de la foi. En matière artistique, vous savez que les temples protestants sont vides, ils sont vraiment dépouillés, c'est le dénuement le plus complet. C'est volontaire. Évidemment, avec la réforme, on passe d'un... Si vous voulez, le culte était un spectacle, c'était un son et lumière, avec les cinq sens étaient sollicités, l'oral, la vue, etc. Et on passe, avec la réforme, à quelque chose qui nous fait dire c'est la parole qui compte. Donc c'est parler, écouter, c'est ça qui est essentiel. C'est comme ça que les temples sont conçus, pour qu'on puisse parler et écouter. Donc il y a tout est éliminé avec la réforme, et puis ensuite progressivement, et aujourd'hui en particulier, on va réintroduire des expressions d'art dans le culte. Mais on le fait avec prudence, parce qu'on a cet héritage qui, avec une certaine sagesse, nous a bien montré qu'il ne fallait pas identifier la louange, il ne fallait pas identifier l'adoration de Dieu à des formes particulières, mais que c'est toute la vie du chrétien qui est louange, et que la parole, c'est la parole, disons, qui suscite la louange, et donc il faut qu'on puisse entendre cette parole, qu'elle ne soit pas noyée par d'autres, submergée par d'autres choses.
Bon, merci beaucoup, Christophe. On va maintenant laisser la place à nos prochains intervenants. Donc, je suis heureuse d'inviter Cory et Michel et James et Paul qui vont nous parler de leur...